Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire de disparition française et c'est une histoire dont malheureusement, on n'a pas vraiment entendu parler dans les médias. J'ai pas vu d'affiches de disparition qui ont été partagées sur les médias sociaux. Et ça m'attriste énormément parce que la victime, elle a mon âge, elle a 29 ans. Fait que les médias devraient s'y intéresser davantage, mais pour une raison dont j'ignore, c'est silence radio. Pour cette vidéo, j'ai été en contact avec son conjoint, David. On va l'entendre tout au long de la vidéo. Il va répondre à mes questions. J'ai fait une entrevue avec lui, j'ai fait plusieurs appels, plusieurs échanges. J'ai été en contact aussi avec sa belle-fille. C'est elle qui m'a contactée. Je pense que c'est une de mes abonnées. Elle m'a mise au courant de la situation. Soyez respectueux dans les commentaires. Honnêtement, la famille va lire les commentaires. Je veux pas de théories à deux scènes, pour être bien honnête. Pensez que les parents vont lire les commentaires, les frères et sœurs, les oncles et tantes, son conjoint va lire les commentaires. Donc soyez respectueux, je vous en supplie. Puis juste donnez des bons mots d'encouragement à la famille, c'est vraiment tout ce dont ils ont besoin en ce moment. Et voilà, et ben sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast Over and Out. Donc l'affaire prend place à Rennes, plus précisément dans le quartier de Cluny. Nous sommes le 13 mars 2021, donc ça fait exactement 10 mois de cela. Céline Verval disparaît. Elle disparaît sans laisser de traces, sans laisser d'indices derrière elle. C'est carrément si elle s'était volatilisée et c'est ce qui rend cette disparition aussi mystérieuse. Elle a laissé derrière elle son argent, son téléphone, et c'est tout. Mais avant de parler de sa disparition, avant de parler des événements durant sa disparition, je vais vous parler de Céline. Céline Verval, c'est une jeune femme de 29 ans qui a fait des études en environnement à Bordeaux, et puis elle a étudié à l'agrocampus de Angers pour finalement faire un master en aménagement des territoires. Donc on peut voir que la cause écologique lui tient énormément à cœur, et c'est d'ailleurs de cette façon qu'elle a rencontré son conjoint, David Poiseau, de 51 ans, un homme qui est aussi activiste pour la cause environnementale.
C'est une jeune femme de 29 ans qui est censée donc aller sur ses 30 ans, puisqu'elle est née en 1992. C'est une jeune femme engagée sur le plan écologique. C'est une femme qui a beaucoup de valeurs humanistes, qui s'est formée à la biologie et puis ensuite... comme ingénieure en paysage, parce qu'elle aime ce qui est beau, elle aime ce qui est esthétique, elle aime ce qui fait du bien aux gens. Je crois me souvenir que c'est comme ça qu'elle, globalement, qu'elle définissait le cadre, l'objectif de sa formation, c'était et du bien-être aux gens, voilà. Et c'est une jeune femme aussi qui est extrêmement talentueuse sur le plan artistique. Elle aurait pu être artisane d'art parce que elle fait beaucoup de réalisations artistiques diverses et variées, avec du papier, du carton, tout un tas de matériaux, du dessin. Elle s'est très, très, très bien dessinée. Des paysages, des portraits, enfin, elle est très douée, elle est très créative, elle est très inventive et elle a des capacités à apprendre très, très, très importantes et ça, c'est vraiment, ça comble les gens de bonheur parce qu'en plus, elle fait beaucoup de réalisations pour faire des cadeaux et vraiment des choses assez incroyables. C'est aussi une femme très indépendante, qui est aussi secrète et très discrète, qui ne livre pas son fort intérieur, qui ne se confie pas, qui a une bonne sociabilité, mais qui reste très discrète. Donc voilà, c'est comme ça que je la dépeindrais. C'est une femme délicieuse et merveilleuse, comme j'en ai rarement connu.
Je vais vous faire écouter une interview radio que le couple a donnée avant la disparition de Céline. C'était pendant la pandémie, fait que c'était en 2020, là, ça fait vraiment pas si longtemps. Je veux juste que vous entendiez la voix de Céline, un peu pour que vous soyez familier avec qui elle est.
Des thématiques, effectivement, qui étaient déjà dans l'actualité avant cette année 2020, mais confirmées, renforcées, en quelque sorte, ça a renforcé votre idée, Céline?
Oui, oui, tout à fait. Cette prise de conscience qui est maintenant générale sur nos modes de vie, la manière de consommer, c'est quelque chose qu'on souhaitait apporter. Et c'est des questions qui sont mises sur le devant de la scène. Donc ça a conforté notre envie et la légitimité qu'on a à porter un projet comme ça. Et de voir qu'il y aura des gens pour nous attendre derrière. Donc ça fait plaisir et ça donne confiance.
Alors, David et Céline, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un petit appartement dans le quartier de Cluny. Je ne suis pas sûre que je prononce bien le nom du quartier, mais ils sont super bien, ils habitent ensemble, ils vivent dans une belle harmonie. D'ailleurs, quand tu googles le nom de Céline et le nom de David, tu vas tomber sur des articles du couple qui dataient d'avant la disparition parce qu'ils dénonçaient le projet d'extension du club de Rennes. Donc, comme je vous disais, ils étaient super activistes. Puis c'était un peu pour ça qu'on les connaissait dans le mouvement là, environnemental de Rennes, là, si je peux me permettre. Donc une chose que je dois absolument dire ici, parce que c'est un peu ça qui a mené aux événements par la suite, c'est que ça faisait quelque temps que Céline entretenait une relation extra-conjugale avec un autre homme. Cet homme, que je vais pas nommer son nom, je vais lui donner un autre nom pour garder son anonymat, donc je vais le nommer Phil. Donc Phil était lui aussi en couple. Et Céline et Phil se connaissaient bien avant sa relation avec David. Donc Céline et David sont ensemble depuis 2013, mais Céline connaissait Phil avant 2013, ils ont même déjà été en couple ensemble. La manière qu'on m'a décrit la relation de Céline et Phil, c'est une relation super passionnelle, mais très toxique également. Quand Phil et Céline ont rompu, Céline a été dévastée. Elle était très, très amoureuse de cet homme-là, qui est aussi plus âgé qu'elle. Justement, quelques mois avant sa disparition, Céline avait revu Phil à quelques reprises pour tenter de mettre fin à sa relation extra-conjugale avec lui, et elle n'y parvenait pas. C'était, comme je vous dis, c'est une relation peut-être passionnel, puis bon. Bref, je crois que c'est important de mentionner cette infidélité parce que ça va carrément nous mener à la disparition de Céline. Donc, la veille de sa disparition, Céline laisse une lettre à l'intention de son conjoint, David, pour lui avouer qu'elle avait eu une relation adultère avec Phil. C'est arrivé à 2 reprises, en 2015 et 2021. Donc, elle lui laisse la lettre et elle demande à David de la lire pendant qu'elle n'est pas là. David la lit, et bien sûr, le soir même, il y a une... Bon, David dit que c'était pas vraiment une dispute, c'est plus une discussion. On comprend, là, l'homme vient d'apprendre que sa conjointe lui est infidèle, donc il y a une grosse discussion dans le couple. David est blessé, il est en colère même, il dit à Céline qu'il sera pas capable de passer par-dessus ça, il sera pas capable de la pardonner, et il lui dit qu'il va la quitter.
Il y a eu la discussion que vous avez eue la veille de la disparition.
Bon, elle vous a laissé la lettre pour bon, vous avouer un peu son infidélité. Ça vous a chamboulé, bouleversé. Et là, vous avez une discussion, vous êtes visiblement blessé. À ce moment-là, Céline, comment elle est? Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne veux pas non plus entrer dans votre intimité ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais... Est-ce qu'elle vous a parlé d'un endroit où elle voulait aller? Est-ce qu'elle a dit quelque chose cette soirée-là? Là? Elle était comment? Dans quel état était Céline?
Je voulais juste contextualiser. En fait, Céline, je pense qu'elle a mis en scène cette révélation parce qu'elle l'a refoulée, comme elle l'a écrit, très longtemps. Elle a refoulé ce lien dangereux qu'elle avait conservé avec cette personne avec qui elle était sortie avant moi, et je ne le savais pas d'ailleurs, alors qu'on la fréquentait. Elle a mis en scène cette révélation parce qu'elle a fait ça le jour de nos 8 ans de relation. Donc il y avait une mise en scène dont je ne sais pas mesurer le détail, mais il y a eu une mise en scène. Okay. Dans la foulée de la lecture de cette lettre, on s'est expliqué, ou plutôt je devrais dire que ça a été un monologue de ma part, puisque Céline était complètement verrouillée, fataliste, je ne sais pas dire, mais en tout cas elle était complètement verrouillée, donc j'ai parlé quasiment tout seul. Donc moi, comme le ciel est tombé sur ma tête, j'étais sous le choc. J'ai eu la réaction de mettre fin à la relation. Voilà. En 30 minutes, c'était plié. 8 ans, oui. Voilà. Et c'est comme ça que... Donc, ce n'était pas une dispute, c'était une rupture, en fait. Et c'est moi qui l'ai acté, en fait, voilà, pour être très précis. Puisque ça n'apparaît pas dans les éléments de presse, par exemple.
Cette nuit-là, Céline et David dorment dans des lits séparés et Céline pleure toute la nuit. Le lendemain, le samedi 13 mars, c'est le jour de la disparition de Céline. La situation reste la même toute la journée. Céline pleure toute la journée. Elle reste une bonne partie de la journée au lit à pleurer. Et David, toujours blessé, en colère, il va pas vraiment consoler Céline. Il lui adresse pas la parole non plus. Puis on peut comprendre, il vient d'apprendre qu'elle a trahi, qu'elle lui a menti, qu'elle l'a trompé. Fait qu'on peut pas lui en vouloir de pas avoir consolé Céline. Puis David savait pas non plus qu'elle allait disparaître par la suite. Donc, on peut comprendre, là. Vers 17h10, 17h15, David quitte l'appartement pour aller faire quelques courses. Il part une quinzaine de minutes environ. Il va au bio-coop à environ 200 mètres de la maison. Il va acheter des bananes, une bouteille de vin. Et au moment qu'il a quitté de la maison, Céline est en train de peler des fruits et s'occuper des plantes dans l'appartement. Quand David revient, la porte de l'appartement est verrouillée et Céline n'est plus là.
Le matin, je suis sorti, je suis rentré. En fin de matinée, je l'ai vue encore en chemise de nuit. Elle pleurait beaucoup, elle pleurait comme une enfant. Elle faisait ouh, comme ça. Elle pleurait vraiment à chaudes larmes. Et ça, c'était avant, je vous dis, l'intermède 16h30, 17h30, ça, c'était en fin de matinée. Parce que entre la fin de matinée ou le début d'après-midi, je ne me rappelle plus, excusez-moi, mais et 16h30, on ne s'est pas vu. Hein, on ne s'est pas vu. Okay. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était donc à son retour de l'extérieur. Elle était manifestement allée cueillir des plantes sauvages, comme elle le faisait assez régulièrement dans notre grand espace naturel de la Prévalais, qui est à côté de chez nous. Et puis, je l'ai vue entre 16h30 et 17h15 ou 17h20, enfin 17h10, 17h20, je ne sais plus exactement, peler des fruits qu'elle avait probablement été chercher dans les poubelles de la Biocoop, qui est juste à côté, notre magasin bio spécialisé. C'est très difficile de décrire l'état d'esprit dans lequel elle était, mais elle était affairée, elle avait l'air concentrée, mais je ne sais pas sur quoi. Elle avait les yeux très brillants, comme si elle, je sais pas, enfin comme si elle, elle avait pris une décision, mais je ne sais pas laquelle. Voilà, enfin ce sont des impressions. Moi, je ne suis pas professeur, mais rétrospectivement, voilà, c'est ce que je me dis. Et on ne s'est pas parlé à ce moment-là. Quand je suis sorti vers 17h10, 17h15, je suis parti 10 minutes, même moins d'un quart d'heure. Et quand je suis revenu vers 17h30, la porte était close, fermée à clé, et je n'ai plus jamais revu Céline.
elle est partie cueillir des plantes sauvages. Est-ce qu'il y a des là, c'est parce qu'on va me le demander dans les commentaires, est-ce qu'il y a des témoins qui l'ont vue en train de cueillir?
Non, à ma connaissance, il n'y a pas de témoins. Mais je ne peux pas vous dire. Je suis probablement le seul qui suis en capacité de dire ce qu'elle a fait probablement avant de partir pour ne plus jamais revenir, puisque moi, je l'ai vu effectivement revenir avec des sacs en plastique, avec des plantes pleines de terre, etc. Donc, d'ailleurs, il y en a une partie qui est restée sur le balcon. Je sais qu'elle est allée au marché au centre-ville vers 13 heures. Elle avait l'air très triste, disait notre maraîcher. Bon, voilà. Moi, je l'ai croisée encore une fois après. Je ne l'ai pas revue avant 16h30 et puis je ne l'ai plus jamais revue vers 17h30. On avait l'habitude, tous les deux, de se laisser la porte ouverte l'un à l'autre parce qu'il y en a toujours un ou une qui pouvait oublier ses clés en sortant à la bibliothèque ou en allant à la Biocoop. Et là, cette fois-là, Céline n'a pas laissé la porte ouverte. Elle savait que j'étais sorti. Elle n'a pas laissé la porte ouverte. Elle a verrouillé la porte. Je ne sais pas ce que ça veut dire ou pas dire, mais je me permets de le mentionner parce que c'est un peu inhabituel par rapport à notre pratique.
Voilà. Effectivement. Ce qui est important de mentionner ici, c'est que à l'époque de la disparition de Céline, le couvre-feu était toujours en vigueur en France et c'était un couvre-feu qui était de 18h à 5h le matin. Donc plus le temps avance, plus c'est anormal pour Céline de ne pas rentrer à la maison. De plus, à cette période de l'année, il commence à faire noir assez tôt, là, à 18h30, il fait déjà noir dehors. Donc très vite, David se demande, bon, Céline est où? Et il se rassure en se disant, elle est peut-être allée se réfugier chez une amie, chez un voisin, elle est fâchée contre moi, on s'est pas parlé de la journée, là, de la peine. Elle est peut-être allée demander un conseil à des amis. C'est là qu'il se met à appeler tout le monde, ses amis, ses proches, ses voisins, et personne a eu une nouvelle de Céline. Il y a personne qui lui a parlé. À 22h, David devient très inquiet parce qu'en fouillant dans l'appartement, il réalise que Céline n'a rien amené avec elle. Elle n'a pas amené des vêtements de rechange, elle n'a pas amené sa trousse de cosmétiques, c'est pas de brosse à dents, rien de tout ça. Elle n'a pas amené de pièces d'identité, elle n'a pas amené de carte d'argent, elle n'a pas amené de son téléphone cellulaire non plus. David passe la nuit debout. Il se rassure en se disant qu'elle finira par rentrer, mais non, Céline ne donne aucun signe de vie.
Je ne me suis pas posé de questions particulièrement. On s'était croisés tout le samedi, même en fin d'après-midi, puisque à l'époque, c'était encore le couvre-feu à 18h. Et je ne me suis pas posé de questions parce que d'abord, Céline était dans l'état dans lequel elle était. Donc, je n'étais pas spécialement surpris qu'elle aille peut-être prendre l'air. Et puis, comme c'est une jeune femme très indépendante à qui on ne dit pas ce qu'il faut faire, voilà, ça faisait deux raisons. Mais disons que je ne me suis pas posé de questions. C'est seulement une fois que la nuit est arrivée. Alors en hiver, à cette époque-là, elle arrive à je ne sais plus quelle heure, 19h. Où là, j'ai commencé à me dire qu'elle n'allait tout simplement pas rentrer. Mais je me suis juste dit, elle est probablement allée passer la soirée et dormir chez quelqu'un, vu la situation. Et donc j'ai contacté, je crois, 2-3 personnes de notre quartier chez qui elle aurait possiblement pu être. Elle ne l'était pas. Et puis le soir venu, j'ai trouvé son téléphone dans la chambre. Je ne sais plus vers quelle heure, après 19h, je pense. Donc là, voilà, j'ai commencé un peu à m'interroger sur pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas pris son téléphone. J'ai vu qu'elle n'avait pas pris ses papiers. Il y avait un porte-monnaie plein d'argent dans son sac. J'ai compris qu'elle ne rentrerait pas. Je me suis dit juste, vu les circonstances, elle va évidemment pas me dire où elle est, mais elle est chez quelqu'un. Mais en tout cas, elle n'était pas chez les 2-3 personnes du quartier chez qui j'ai estimé qu'elle aurait pu être. Non, l'appartement était normal, c'est-à-dire plus ou moins rangé, plus ou moins enfoui, mais comme d'habitude, hein, c'est nous. Non, il n'y avait rien de particulier, sauf que je me suis aperçu dans le courant de la soirée qu'elle avait pris ni son téléphone, ni ses papiers, ni son argent, et qu'il y avait un sac à dos qui était resté là, qui m'a interpellé, puisque dans sa lettre, Céline avait avait anticipé ma réaction en disant, en m'écrivant, si jamais tu es pas en capacité de qu'on se parle aujourd'hui, je peux dormir chez Laurence. Donc Laurence, c'est une amie de quartier que j'ai appelée justement, que j'ai contactée par SMS et qui m'a dit que Céline n'était pas chez elle. J'ai vu dans ce sac à dos qu'il y avait quelques affaires, il y avait une culotte et une serviette. Et là, je me suis dit, bon, bah, elle avait prévu le coup d'aller chez Laurence, mais elle n'est pas chez Laurence. Une fois que j'ai compris qu'elle ne rentrerait pas et puis que j'aurais sans doute pas moyen de savoir où elle était et que probablement la personne qui pourrait l'héberger ne dirait pas qu'elle est chez elle, évidemment. Et voilà, j'ai terminé ma soirée comme ça, puis je suis allé me coucher, voilà, vers minuit, tout simplement.
Okay.
Pour répondre à votre question aussi sur ce qu'elle aurait pu emmener, je dis bien c'est un conditionnel, mais je pense que Céline est partie avec un sac de la Biocoop en coton écru.
Je vais mettre une photo France. À l'écran. Okay.
Voilà. Je pense qu'elle est partie avec ça parce que je ne l'ai jamais retrouvée. Je pense qu'elle est partie aussi avec le canif de son père qu'elle avait probablement utilisé pour cueillir ses plantes sauvages puisque j'ai retrouvé beaucoup plus tard, plusieurs jours ou semaines après, j'ai retrouvé l'étui dans la maison, l'étui vide. Donc, elle a dû partir avec son canif. Et elle est possiblement partie aussi avec une thermos. Mais je ne sais pas ce qu'il aurait pu y avoir dedans. Voilà, c'est un conditionnel, mais pour moi, c'est un conditionnel un peu puissant quand même.
Parce qu'ils ne sont plus dans votre appartement.
Non, et elle avait aussi son jeu de clés avec un tour de cou, donc ce jeu de clés complet avec toutes les clés de la maison, du garage, de nos vélos, enfin de nos cadenas vélos et tout ça. Donc, a priori, elle est partie aussi avec son jeu de clés dont elle s'est servie pour fermer la porte à clé.
Dès le lendemain matin, David se rend au commissariat.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Police pour signaler la disparition de sa conjointe, Céline. Et assez vite, les policiers prennent la disparition au sérieux. Ils commencent les recherches la journée même. On organise des recherches dans la ville et dès le lendemain, le 14 mars, il y a des chiens pisteurs qui sont amenés devant l'appartement de Céline et David. Il y a des chiens qui flairent le trajet de Céline de son appartement jusqu'à une écluse qui se trouve dans la rivière Vilaine. La rivière Vilaine, c'est une grosse rivière dans la ville qui a un courant très très fort. Et à l'intérieur, il y a une écluse. Et les chiens, ils ont suivi sa trace de son appartement jusqu'à l'écluse. C'est environ 5 minutes de marche, mais rendu à la rivière, ils perdent sa trace. La police mobilise des plongeurs qui sondent la rivière et on se concentre surtout autour de l'écluse.
J'ai su tout de suite qu'ils avaient fait passer des chiens et que sa piste avait été perdue à l'écluse du Moulin du Comte, près du Stade Rennais, sur les bords de la Vilaine. Mais je n'ai vu que ce tracé où elle a fait des allers-retours une fois qu'elle était là-bas. Depuis notre domicile, elle a fait des allers-retours, elle a traversé la berge, elle a retraversé, etc. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait ses allers-retours là. Et c'est comme ça que j'ai appris, donc le 12 octobre seulement, que le chien pisteur s'était arrêté au bord de l'eau. Voilà. Okay. Mais malheureusement, je ne sais pas ce que ça veut dire. La police ne m'en a jamais parlé et je pense qu'elle ne le fera jamais.
Toujours le 14 mars, David est interrogé par les policiers, ce qui est normal parce que David, bon, premièrement, c'est la dernière personne à avoir vu Céline. C'est toujours les personnes qu'on va interroger en premier et aussi c'est son conjoint. Tu sais, dans les cas de disparition, le conjoint, c'est le premier qu'on va interroger, fait que c'est normal, on n'a pas à s'en faire. On interroge David. Le lendemain, le lundi 15 mars, on l'interroge une deuxième fois. Cette fois-ci, les policiers semblent le suspecter davantage. Mais encore là, c'est normal, tu sais. Ils viennent de se disputer, c'est la dernière personne à l'avoir vu, c'est son conjoint. On peut comprendre que l'attention est centrée autour de David, mais aussi, c'est lui qui peut le plus aider les policiers en ce moment parce que c'est lui qui partageait sa vie avec Céline, t'sais. L'interrogatoire dure 3 à 4 heures et on demande à David de donner son emploi du temps en détail. Et honnêtement, j'ai lu ça et les recherches faites par les policiers m'impressionnent vraiment. J'étais naïve de penser ça, mais je pensais pas que les policiers français déployaient autant d'efforts dans des cas de disparition comme ça. Mais écoutez tout ce qu'ils ont fait quand même dès les premiers jours. Le 16 mars, on envoie la police scientifique chez David et Céline pour une perquisition. On saisit les objets personnels de Céline qui possède son ADN. On fouille aussi son garage et sa voiture. Le tout est vraiment passé au peigne fin. On cherche d'éventuelles traces de sang. On n'en trouve pas. On passe aussi l'auto au luminol. On trouve rien. Finalement, la journée même, on distribue des affiches de disparition partout dans la ville et on considère déjà sa disparition comme étant une disparition inquiétante. Pourquoi on a jugé que la disparition de Céline était c'est une disparition inquiétante? Parce qu'il y a une différence entre une disparition et une disparition inquiétante. Est-ce que les policiers, la police scientifique ont retrouvé des choses qui pourrait laisser croire à une disparition inquiétante?
Alors, ce que je pourrais vous répondre, Victoria, premièrement, c'est que c'est moi-même qui ai assumé de déclarer une disparition inquiétante. Okay. C'est moi-même, son compagnon, qui est acté ça. Okay. Je l'ai dit tout de suite. C'est pour ça que je suis allé au commissariat. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai dit la vérité sur les circonstances de la rupture. Donc, bien évidemment que ça, c'est sa disparition volontaire ou involontaire était inquiétante pour ce motif. Et elle l'est doublement parce qu'on ne la retrouve toujours pas. Absolument. Ni morte, ni vivante.
Par contre, ici, un petit bémol ou une petite erreur que les policiers ont fait, mais une petite erreur qui peut quand même être considérée comme une grosse erreur, c'est que la photo que les policiers ont utilisée sur l'affiche de disparition de Céline ne ressemble pas du tout à Céline. C'est comme une photo qui lui ressemble pas du tout, malheureusement. Je sais pas si les policiers pouvaient savoir. C'est une erreur de leur part, ils pouvaient pas savoir. Mais ça peut quand même avoir des gros impacts parce que peut-être que les gens l'ont croisé et se sont fiés à l'affiche de disparition puis ont dit « ben non, c'est pas la même fille ». Mais en effet, quand tu regardes la photo, ça ressemble pas du tout à Céline. Les recherches s'intensifient. Le 19 mars, on déploie 80 policiers et pompiers et un hélicoptère. On concentre surtout les recherches près de l'appartement, mais aussi près d'une zone de campagne qui était chère à Céline. Là, elle défendait beaucoup cette zone-là dans la cause environnementale. Fait qu'elle aimait ça aller s'y balader. C'est un endroit qui est important pour Céline. Puis elle aurait pu y aller pour s'y réfugier. Le 1er avril, il y a enfin une piste intéressante qui surgit. Il y a un témoin qui dit avoir embarqué Céline en autostop et l'avoir amenée à 7 km de Rennes, mais tristement, plus tard, on va apprendre que c'était une fausse piste. Depuis ça, il n'y a plus rien. Il y a une nouvelle juge d'instruction qui a été assignée au dossier. Aussi, ça faisait des mois que David demandait à être auditionné. Finalement, il a été passé en audition le 12 octobre. Et il a été vraiment choqué de voir à quel point les policiers n'ont pas interrogé plusieurs personnes qui auraient pu contribuer à l'enquête. Par exemple, des anciens collègues de Céline, des amis d'enfance. Peut-être que ces gens-là auraient pu donner des informations essentielles. Et depuis que David a donné des noms, là, les policiers, les enquêteurs ont interrogé plus de 100 nouveaux témoins. Fait que c'est quand même important. Mais là, suite à l'audition, coup de théâtre, le juge d'instruction a demandé une expertise psychologique sur David. On veut déterminer s'il pourrait avoir un potentiel profil criminel. Le choc a été énorme pour David, si gros que la requête du juge d'instruction l'a envoyé tout droit aux urgences. Son expertise a eu lieu le 5 janvier et a duré un total de 5h30. Est-ce que vous avez le résultat de cette expertise ou on va vous faire patienter encore?
Non, en fait, à l'issue de mon audition fleuve de 6 heures par la juge d'instruction remplaçante le 12 octobre, eh bien, début novembre, mon avocate m'a informé de l'ordonnance que la juge avait prise en vue de mon expertise psychologique pour déterminer, il y avait une série de points d'investigation, plusieurs, 8 ou je ne sais plus combien. Et les principaux, c'était visaient à déterminer si en fonction de mon intelligence et de ma personnalité, je n'aurais pas pu travestir mon récit de vie et les faits. Donc, bon, voilà, c'est pour déterminer si je n'aurais pas un profil criminel. Voilà, il faut dire les choses.
Ouais.
Et donc, j'avais été convoqué une première fois le 22 décembre, mais là, quand même, j'ai fait savoir que je n'étais pas disponible, après avoir vérifié auprès de mon avocate que je pouvais faire reporter cette expertise. Et donc, l'expertise s'est tenue le 5 janvier, à mon retour de chez mon fils, de chez mes amis, encore 5h30 sur le grill. Cette expertise doit être remise, si je me souviens bien, avant la fin mars, je crois, à la juge d'instruction. Donc, elle va lui être remise directement et je ne sais pas ce qu'elle va en faire. Je ne sais pas si elle va nous la communiquer, je ne sais pas.
Exemple, vous avez un profil potentiel criminel. Qu'est-ce que ça va changer à l'enquête? Ça peut rien changer? Ils ont rien, ils n'ont aucune preuve, aucun indice?
Bah, écoutez, moi, ce que je pourrais dire, moi, en tant que compagnon de Céline, qui vit un grand malheur, qui suit dans le chagrin, la tristesse inconsolable, l'abandon, la solitude, etc., l'isolement, l'incompréhension, c'est que je vais vous imaginer ça. En fait, la réception de cette ordonnance m'a fait le même choc que la révélation de Céline. Un choc extrêmement violent. Je le vis très mal. Enfin, ça va mieux maintenant, mais je l'ai tellement mal vécu que ça m'a fait descendre de plusieurs marches encore en termes d'épuisement physique et mental et émotionnel. Ça m'a rapproché encore du précipice. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas seulement pour parler de cette énième violence, mais enfin, je me permets de le dire, je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort, mais d'abord, je l'ai mal vécu parce qu'il y avait déjà tout le reste.
Ouais.
Parce que je n'étais plus censé être suspecté, on me l'avait fait savoir officieusement déjà depuis l'été, parce que j'ai vécu ça comme une insulte à ma probité, une insulte à mes sentiments pour ma compagne. Et puis aussi, je trouve que objectivement, c'est foireux. Je me permets de le dire carrément comme ça. C'est foireux de commander cette expertise sur ma personne au bout de 8 mois. Alors, est-ce que la juge d'instruction remplaçante a voulu corriger un manquement de procédure puisque, bon, voilà, en tout cas, elle avait le pouvoir de le faire, elle l'a fait, je m'y suis plié, mais en tout cas, j'ai fait savoir que, franchement, c'était foireux parce que faire ça au bout de 8 mois, alors même que, selon toute vraisemblance, ils n'ont même pas le moindre indice de la vie ou de la mort de Céline, en plus.
Ouais.
Donc, c'est une espèce d'anticipation à rebours, là. Bon, donc, je ne sais pas, est-ce qu'ils font ça pour la forme, pour s'assurer que, et puis, une fois qu'ils auront eu tous les éléments, à force d'avoir les éléments, ils vont... Et que comme ils ne trouvent rien et qu'ils ne vont pas y consacrer des années à chercher Céline, bah, ils vont clore le dossier. Voilà, c'est une possibilité.
Donc voilà les informations autour de la disparition. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y aurait 3 thèses que je peux voir qui auraient du sens. La première, tristement, on peut penser à l'hypothèse du suicide. Puis je pense que en tant que personne qui ne connaît pas Céline et qui a un regard assez détaché de l'affaire, c'est la thèse la plus probable. Mais en même temps, j'ai l'impression que si elle s'était suicidée, on aurait retrouvé son corps. Mais aussi, si elle avait laissé une lettre à David pour lui expliquer son infidélité, elle aurait probablement laissé une lettre de suicide. Ou si elle s'était enlevée la vie, pourquoi elle serait partie de la maison pour le faire? Pourquoi elle l'aurait pas tout simplement fait dans l'appartement? Fait que c'est ça que je me demande. Mais d'un autre côté, ça expliquerait aussi pourquoi Céline serait partie sans ses effets personnels.
J'ai lu dans un article que vous aviez dit avec du recul que c'est possible que Céline pouvait être dépressive. Est-ce que vous le pensez toujours? Est-ce que c'est vrai? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut penser à une hypothèse que peut-être que Céline se serait enlevée la vie?
C'est très compliqué. Pour la première raison, tout m'est tombé dessus comme ça, sans signe avant-coureur.
Oui.
Céline n'a jamais laisser montrer le moindre signe, enfin en tout cas me semble-t-il, d'un éloignement de moi, puisque je pense que c'était une problématique qu'elle vivait, mais que j'ai tout découvert en même temps en fait.
Ouais.
C'est horrible. Je suis le seul à le dire, je pense, parce que d'abord, j'ai quand même vécu avec elle 24 heures sur 24 pendant plusieurs années. Il y a des choses que j'ai commencé à comprendre rétrospectivement en me remémorant certaines choses, en lisant ce qui a été très dur, très cruel, son écrit intime éphémère qu'elle a fait entre le 3 et le 9 mars. Sur un temps où une partie j'étais pas là, une partie j'étais là. D'ailleurs, je sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé ce temps pour écrire ça tout à fait secrètement, parce qu'il y a quand même des éléments écrits dont je me souviens très bien et qui pour moi signent quelque chose qui va au-delà de la problématique purement sentimentale, purement affective. Je pense que Céline, qui avait horreur de faire du mal aux gens et avait horreur de mentir. Alors, il y avait déjà ce secret-là d'un lien dangereux, amical, de confident, etc., qui était resté et qui a été une épée de Damoclès au-dessus de notre couple et au-dessus d'elle-même. Ce lien, cette relation, cette emprise volontaire et toxique, comme elle l'a écrit dans sa lettre à moi, mais je pense que il y a eu un ensemble de choses qui vont au-delà de d'abord je pense qu'elle s'était éloignée de moi pour des raisons que je peux comprendre, sauf que le problème c'est que Céline était une personne qui ne savait pas dire les choses, qui avait beaucoup de mal à parler, elle le disait souvent d'ailleurs, qu'elle avait du mal à exprimer les choses, donc elle m'a jamais exprimé le moindre reproche, la moindre critique, n'a jamais attiré mon attention, etc. Jamais, 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 ni sur l'oreiller, ni ailleurs. Et puis, surtout, ce qu'elle a écrit, pour moi, c'est tellement hallucinant qu'elle était vraiment au bout du rouleau, je pense, au bout du rouleau. Et si elle était au bout du rouleau, je pense, c'est parce qu'elle était en dépression, à mon avis.
Sinon, nous avons la thèse de la disparition volontaire.
Mon sentiment, c'est que si Céline a disparu volontairement, sur un coup de tête ou pas, hein, parce que,
ouais,
à mon avis, elle avait anticipé les choses. Pour moi, c'est assez clair qu'elle avait anticipé les choses. Mais comme je ne sais pas dans quel état elle est partie, je ne sais pas ce qu'elle a vraiment accompli de ce qu'elle avait anticipé. Je ne sais pas. Mais si elle a voulu disparaître, à mon avis, elle n'est pas dans des réseaux militants structurés. Voilà, elle n'est pas sur une ZAD, comme on définit les zones à défendre ici, depuis que ça a été mis en place et théorisé par à Notre-Dame-des-Landes sur le site de l'ancien projet d'aéroport près de Nantes. Je pense que ça m'a traversé aussi, mais à mon avis, elle n'est pas dans une ZAD. Si elle est vivante et qu'elle se ressource quelque part, et donc j'espère protégée par une ou plusieurs personnes, alors elle est dans un... Elle est dans un lieu autonome, autogéré, dans la nature ou dans la nature, à la campagne, quelque chose reculé, au calme, protégé, où elle se ressource, elle se restaure, elle se ressource.
Finalement, on pourrait penser à la piste criminelle. Il n'y a rien qui pointe vers cette hypothèse parce que, justement, il y a la police scientifique qui ont fait des tests partout dans l'appartement. Puis on n'a rien trouvé. Ni les chiens, ni la police scientifique. Fait que s'il y avait du sang, s'il y avait quoi que ce soit qui montrait un débat, une chicane violente, on l'aurait vu. Malheureusement, dans des cas de disparition comme ça, des cas de disparition inquiétantes, ben, il faut considérer toutes les hypothèses. Donc pour finir, Céline Verval avait 29 ans au moment de sa disparition. Elle a les cheveux mi-longs, blonds, roux. Elle a les yeux bleus, elle mesure 1m67 et porte des lunettes et elle a des taches de rousseur. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon gris, une chemise à carreaux verts et jaunes, un blouson à zipper vert, des chaussures noires et rouges foncées de marque Salomon.
En revanche, ce que je peux vous dire, et c'est là que j'embraye sur un autre point qui est important et que vous conserverez ou pas, c'est que ça a beaucoup interpellé le médium que j'ai contacté dès le mardi qui a suivi la disparition de Céline. Et donc, ce médium qui s'appelle Robert et qui est localisé à Angers, dès le jeudi, il m'a fait son diagnostic. Je disais que ça l'avait beaucoup interpellé d'apprendre, puisque je lui fais des points, moi, réguliers, on est toujours en relation, hein, que ça l'avait beaucoup interpellé que le chien s'arrête au bord de l'eau, à la Vilaine, parce que lui, dès le jeudi qui a suivi la disparition de Céline, il m'a dit « Pour moi, Céline n'est pas vivante, je ne ressens pas de vibrations. » Ou des vibrations tellement faibles que pour moi, elle n'est pas vivante ou elle n'a pas survécu à quelque chose qu'elle a fait ou qui lui est arrivé. Il a même vu un voile noir. Alors, dans les visions des médiums, ça veut dire quelque chose, semble-t-il, de très, très particulier. Il s'est appuyé aussi sur des confrères à lui qui ont confirmé ce diagnostic. Donc, voilà, c'est pour ça que Robert a été beaucoup interpellé quand je lui ai dit, après le 12 octobre, que le chien s'était arrêté au bord de la Vilaine. Pourquoi ? Parce que lui, il dit, comme ses confrères, que Céline... serait à 5-7 km à l'ouest de Rennes,
okay,
entre Vezin-le-Coquet et Mordel. Alors, c'est pas, faut pas tracer une droite, hein, c'est pas linéaire. Hein. C'est un grand secteur qui est compris entre Vezin-le-Coquet et Mordel, proche de l'eau ou dans l'eau. Et tout l'ouest de Rennes est composé d'un nombre impressionnant. C'est un vrai casse-tête d'ailleurs, de masses d'eau statiques, des étangs, des marais, des marécages, etc. Et des masses d'eau en mouvement, comme la Vilaine ou ses bras. Lui, il la voit comme ses collègues, comme ses homologues, dans de l'eau tourbillonnante. Il y en a un autre qui parle de masse noire, mais voilà, donc elle serait là.
Si vous avez une petite information que vous pensez qui pourrait aider à retrouver Céline, je vais mettre les numéros de téléphone dans la barre d'infos. Écoutez, toute information est importante et bonne à dire. Même si vous vous trompez, c'est pas grave, contactez les policiers. Si vous pensez que quelque chose peut faire avancer l'enquête, n'hésitez pas et appeler. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vais partager la fiche de disparition de Céline sur mes médias sociaux, sur Twitter, Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à repartager s'il vous plaît. On va créer un gros mouvement qu'on va partager la photo de Céline partout sur les médias sociaux. Donc voilà, c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Over and out.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.